3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Un programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Avec l'augmentation des missions de conquête spatiale, vient le risque de contamination de notre planète par des organismes extraterrestres. Spores d'un champignon ou d'une bactérie, virus, de telles formes cosmiques de vie primitive sont plus probables que des formes complexes et intelligentes. Cependant, elles n'en sont pas moins à redouter. Portées par une météorite, elles pourraient être à l'origine d'une pandémie sévère, prenant au dépourvu le système immunitaire humain autant que l'organisation terrestre de la réponse sanitaire. Reste qu'à ce jour, aucun micro-organisme extraterrestre n'a été découvert sur Terre. Mais au cinéma, ces micro-organismes ont souvent terrorisé le spectateur, que ce soit des créatures gélatineuses telles que The Blob, qu'il s'agisse de plantes attachées à une sorte de base qui deviendra un espace pour reproduire un double de leurs victimes dans Invasion of the Body Snatchers, ou encore une bactérie qui activera notre faune au point de transformer notre population en plantes, comme dans Creepshow. Bien que cette menace ne semble être présente que sur le grand et le petit écran, les associations scientifiques craignent déjà une contamination non seulement de notre monde, mais également d'autres mondes que la race humaine pourrait visiter lors de son exploration spatiale afin de découvrir d'autres souches de vie. Pensons au programme de SpaceX qui veut partir à la conquête de Mars ainsi qu'à l'éventuelle construction d'une base lunaire qui deviendra alors un tremplin pour l'exploration spatiale. Bien que nos organismes microbiologiques pourraient devenir une menace pour d'autres mondes, c'est de l'autre côté de cette médaille que je vous transporterai aujourd'hui avec la présentation des films The Green Slime, réalisé en 1968, et Life, réalisé en 2017. Donc, préparez vos pistolets laser et sortez vos livres de biologie et votre esprit scientifique, puisque je vous transporte aujourd'hui dans un monde qui nous démontre à quel point la race humaine peut être rapidement effacée de la réalité par des envahisseurs organiques microscopiques provenant de l'espace.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
We're happy to have you with us this evening and want you to enjoy every minute of your stay here. And while you relax and stretch, visit our concession where you'll find something to please you. There are ice-cold drinks, delicious sandwiches, ice cream, coffee and snacks, and many other pleasing treats. Our foods are fresh and tasty, our drinks satisfying and refreshing. They're so good.
You get more out of life when you go out to a movie.
Symbols. We're all familiar with them. There are shortcuts to vital information. That's why, to familiarize you with the movie rating symbols which will be used by this theater, we present the following guide for parents and young people. It is designed to inform parents about the suitability of movie content for viewing by their children. G, All ages admitted, general audiences. GP, all ages admitted, parental guidance suggested. R, restricted, under 17 requires accompanying parent or adult guardian. X, no one under 18 admitted.
Red alert! The Mysterons are in control of the post office tower. The European communications network is thrown into confusion. Big Orbit will put the Mysterons out of action. Communications are restored. Orbit is the greatest. Now, release the news about the European Adventure Card. Free with every Orbit.
Big Orbit. Only ninepence from Lion's Mate.
The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime.
Get more out of life. Go out to a movie.
Stars. The lonely, helpless Earth. The 21st century. The world of the future. And lurking beyond the cold, strange immensity of conquered space. Growing and spreading beyond the warped imagination of the greatest human intellect. Exploding in unspeakable horror. The Green Slime. The civilized world at war with alien form, whose slimy touch means instant, horrible death. Invaders from beyond the stars. The Green Slime. Robert Horton. Luciana Paluzzi. Richard Jekyll.
You make too many mistakes. You're not right for command.
This is my command, and I'll manage it.
Two men struggle for survival in the infected remains of a diseased universe.
Don't ask any questions!
One woman searches for a last chance to save the human race from the desperate hunger of the Green Slime. A battle in space against faceless beings. A cosmic nightmare that sends you into the incredible berserk world of
Green Slime! Green Slime! Green Slime!
The Green Slime, ou Bataille au-delà des étoiles, est un film de science-fiction distribué par les studios Toei Company et Metro Goldwyn Mayer le 1er décembre 1968. Ce film américano-japonais est d'une durée de 86 minutes. Malheureusement, il m'a été impossible de découvrir le montant du budget ou encore comment le film a amassé au box-office. Au niveau de la réalisation, on y retrouve le metteur en scène japonais Kinji Fukasaku, lui qui nous a donné les films « Tora, Tora, Tora », Virus en 1980 et Bataille Royale en 2000. Au niveau de la production, on y retrouve les producteurs Walter Manley, ce producteur américain qui a travaillé sur les films Evil Brain from Outer Space et Atomic Rulers, ainsi que le producteur américain Ivan Reiner, lui qui avait travaillé sur les films tels que Terror Beneath the Sea. Au niveau de la scénarisation, on y retrouve Bill Finger, ce scénariste américain qui avait travaillé sur les scénarios Death Come to Planet 18 et Track of the Moon Beast, ainsi que Tom Rowe, ce scénariste américain qui a travaillé sur The Light at the Edge of the World et Tarzan the Ape Man, ainsi que Charles Sinclair, ce scénariste américain qui a travaillé sur Death Comes to Planet Itin et Chase of a Crooked Shadow. À la distribution, on y retrouve Robert Horton, Richard Jekyll, Luciana Paluzzi, Ted Gunther, Robert Dunham, William Ross, Gary Randolph et un jeune Roy Scheider. Devant la menace imminente du choc d'un astéroïde contre la Terre, les autorités américaines envoient sur une station spatiale un expert qui parvient avec son équipage à le faire exploser à temps et à conjurer le danger. De retour à la station Gamma 3, ils ramèneront avec eux, à leur insu, un organisme visqueux provenant de l'astéroïde. Nourri par l'énergie électrique de la station, cette matière se transforme en un monstre qui donne naissance à d'autres créatures comme lui et menace la destruction de la station spatiale et de la Terre. Producteur et scénariste, l'Américain Ivan Reiner a connu une carrière éclair dans les années 60, s'illustrant principalement dans le domaine de la science-fiction. Durant cette période, la presque totalité des films qu'il a chapeaudés sont des coopérations internationales. La naissance de l'histoire de The Green Slime se fera en Italie vers la fin des années 60, alors que la compagnie MGM produisait, avec l'aide du cinéaste italien Antonio Margheriti, une série de films qui se devait à l'origine être une série de 4 téléfilms sur les aventures d'une station spatiale appelée Gamma One. Les films, dans la série de Margheriti, comprenaient Wild Wild Planet, War of the Planet, War Between the Planet et Snow Devils, tous créés sur une période de 3 mois et sortis en 1965. Impressionné par les œuvres cinématographiques de Margheriti, MGM décidera alors de sortir les 4 films en salle. C'est alors que le producteur Ivan Reiner aura l'idée pour l'histoire de The Green Slime. Il s'associera alors avec l'autre producteur de la quadrilogie de Margheriti, Walter Manley, et les deux hommes, impatients de profiter de la popularité de leur dernière production, approcheront de nouveau Metro Goldwyn Mayer. On proposera à la compagnie de faire de Green Slime une 5e entrée non officielle dans la série des films de Margheriti. Mais le seul lien avec cette quadrilogie sera la station spatiale rebaptisée Gamma 3, qui avait un design similaire à celui des films de Margheriti. Mais Reiner a également travaillé au Japon. Suite à son expérience sur le long-métrage de science-fiction horrifique Kaite Daisenso avec Sonny Chiba, le scénariste-producteur proposera aussi son histoire au studio de production japonaise Toei. De cette présentation naîtra un partenariat entre les deux entreprises de production. Dans l'entente, la compagnie MGM fournira le financement du long-métrage et s'occupera de superviser l'écriture du scénario, alors que la compagnie Toei fournira, elle, l'équipement ainsi que les lieux de tournage du long-métrage. Ivan Reiner travaillait régulièrement avec la même équipe de scénaristes, dont l'un des noms au générique est très connu aujourd'hui des amateurs de comic book, soit Bill Finger, le co-créateur de Batman et d'une flopée d'autres personnages pour l'éditeur DC Comics. Alors que les opportunités à la fin des années 60 se faisaient de plus en plus rares dans le domaine du comic book, Finger livra des scénarios pour les séries télé Batman, Hawaiian Eye et 77 Sunset Strip et collabora entre autres à 2 films produits par Reiner, soit La mort vient de la planète Itin et bien sûr The Green Slime. Tom Rowe et Charles Sinclair viendront terminer le travail avec quelques retouches et ne restera maintenant plus qu'à débuter la production. Tourné entièrement au Japon avec une équipe technique locale, The Green Slime marque la toute première incursion dans le genre du réalisateur Kinji Fukasaku. Ce sera également la première fois que Fukasaku dirigera une distribution internationale. En effet, les acteurs américains Richard Jekyll, qu'on avait vu dans The Dirty Dozen, et Robert Horton seront embauchés avec l'Italienne Luciana Paluzzi, qui était considérée à l'époque comme sex-symbole au niveau international suite à sa prestation de Bond Girl dans le film Thunderball. Les figurants sont entièrement composés de soldats en poste au Japon au moment du tournage. Quant au reste de la distribution, celle-ci était composée d'acteurs occidentaux amateurs et semi-professionnels vivant au Japon à l'époque. Mais la tâche ne sera pas facile pour le metteur en scène japonais qui devait demander les services du gérant de production William Ross afin de traduire ses directives aux acteurs. De plus, le réalisateur Kinji Fukasaku avait beaucoup d'ambition pour ce film puisqu'il déclara dans plusieurs entrevues qu'il voulait établir un parallèle avec la guerre du Vietnam et cette histoire de militaires américains aux prises avec une force supérieure en nombre. Malheureusement, et ce sans surprise, on ne trouve aucune trace de ce sous-texte dans cette aventure spatiale. Le budget étriqué ne permet pas de folie au niveau des effets spéciaux et les miniatures seront réalisées par les équipes de la Toei sous la direction des anciens employés de la Toho, Yukio Manoda et Akira Watanabe, les Japonais ayant développé cet art avec les nombreux films de monstres produits durant cette période. Le metteur en scène parviendra tout de même à maintenir un certain rythme visuel grâce à son directeur photo Yoshikazu Yamasawa. Quant aux créatures extraterrestres, la majorité furent jouées par des enfants japonais vêtus de costumes de monstres volumineux. Alors que le compositeur japonais Toshiaki Tsushima avait été embauché pour réaliser la trame sonore, c'est le compositeur Charles Fox qui sera embauché pour retravailler la musique existante dans la version américaine du film, car il n'y avait pas de budget pour une nouvelle partition. Il acceptera avec hésitation et insistera pour qu'il ne soit pas crédité au niveau du générique. Le film verra donc la trame sonore de Tsushima fortement rééditée par des compositions appartenant à divers compositeurs, y compris des segments musicaux de Tsushima et même des pièces existantes de Fox. Mais, à sa grande surprise, le film s'est ouvert avec le nom de Charles Fox, non seulement crédité, mais crédité en tant que compositeur principal. Charles Fox écrira la chanson-thème de ce film intitulée The Green Slime. Il sera également connu pour la co-écriture d'une autre chanson populaire de cette même année, soit celle de Barbarella, du réalisateur français Roger Vadim. La sortie en salle aux États-Unis comprendra une intrigue secondaire impliquant un triangle amoureux entre le docteur Lisa Benson, Rankin, son ancienne flamme, et Vince, son fiancé actuel. La version japonaise laissera de côté cette intrigue secondaire pour accélérer le rythme. Alors que le film sortira aux États-Unis le 1er décembre 1968, The Green Slime sortira en salle une semaine plus tard au Japon. À cause des coupures apportées à la version japonaise, cette dernière ne durera que 77 minutes par rapport à la version de 86 minutes publiée aux États-Unis par MGM. Le film The Green Slime sera utilisé pour l'épisode pilote de la série télévisée Mystery Science Theater 3000 en 1988. Le long-métrage de science-fiction sera également une source d'inspiration majeure pour le jeu de société de 1979, The Awful Green Things from Outer Space. Chaque année, le Green Slime Award est décerné pour les pires créations de la science-fiction de l'année en cours à l'événement Bubonicon présenté dans la ville d'Albuquerque au Nouveau-Mexique. Cette tradition fut lancée par l'écrivain Roy Tackett en 1976. Du côté des points forts, eh bien, si vous êtes un adorateur des films de monstres japonais de cette période et des différents effets spéciaux ayant un look très Jerry Anderson, eh bien, ce film est définitivement pour vous. Après une bonne introduction, le rythme du film ne ralentit jamais, ne donnant vraiment aucune chance aux spectateurs de s'ennuyer durant ce spectacle, malgré la faiblesse du scénario. Les effets spéciaux du Green Slime sont excellents pour l'époque, avant que la substance verte ne devienne une créature monstrueuse. La mise en scène est rehaussée par l'excellente direction photo qui met du dynamisme dans le film grâce à ses cadrages sortant de l'ordinaire pour le cinéma asiatique de cette époque et faisant par moments très Batman 66. Les moyens techniques substantiels dont disposaient les auteurs sont convenablement exploités, les décors comme la photographie sont au point et les interprètes se prêtent au jeu avec un sérieux imperturbable. Mais du côté des points faibles, eh bien le scénario, bien que assez bien imaginé, n'apporte toutefois rien de neuf au film du genre. À condition d'accepter au départ les règles du jeu, le simplisme des situations et les monstres en caoutchouc risquent de faire rire plus qu'ils vont effrayer le spectateur. Les effets spéciaux qui ressemblent véritablement à un épisode de la série télé de Jerry Anderson, tels que Capitaine Scarlet ou Thunderbird, enlèvent toute chance de prendre au sérieux le film. On s'attend d'ailleurs à tout moment que n'apparaissent des marionnettes à la place des différents acteurs. De plus, l'aspect technologique et scientifique font vraiment rire ici, surtout lorsque l'on voit du feu dans l'espace et de la fumée. Finalement, on a véritablement l'impression que le film a été traduit par de très mauvais traducteurs, alors qu'il s'agit ici de la véritable voix des acteurs américains. Au niveau de la musique, eh bien, c'est Toshiaki Tsushima, qui est ce compositeur japonais qui nous a donné les musiques des films Street Mobster, The Magic Serpent, The War in Space et Wandering Gizma Butterfly. Il n'existe aucune trame sonore du film, mais j'ai réussi quand même à vous trouver la chanson-thème, soit The Green Slime.
You'll find the secret. To find the answer is to keep it. You'll believe it when you find something screaming across your mind. Green slime. What can it be? What is the reason? Is this the end to all the reason? Is it just something in your head? Will you believe it when you're dead? Green slime. Man has looked out to space in wonder for thousands of years. Is it just something in your head? Will you believe it when you're dead? Green slime, green slime, green slime, oh, green
And now, intermission. Refreshment time.
See what I get from the refreshment counter. Oh boy, popcorn and candy bars and ice cream and oh boy, sparkling, ice-cold Coca-Cola. Oh, boy, that tastes good. Have you been to the refreshment counter?
Well, beauty of the country scene. An old mill still turns. The young folk dance round the maypole, and the ancient ceremony of feasting on the village green is a tradition of centuries. Today, the barbecue, the new idea in party giving, brings this custom up to date. With cigarettes, too, there's the new way, Rothmans King Size. Rothmans invented King Size for cool, smooth smoking. Extra length, finer filter, and the best tobacco money can buy give you the real King Size flavor that satisfies. Rothmans, the king size name for cigarettes.
Ah, hello there. Give the demonstration of my new invention, the goodies machine. Special for patrons of this drive-in, the machine turns out delumptious hot doggies one after the other. Und thirst-quenching sodas also. Gives popcorn of the most tasty kind, plain and buttered. Candy, too, crunchy and dandy. Steaming hot coffee and ice cream, too. These goodies are at our snack bar just waiting for you.
Here's a new taste treat. The corn dog. Plump, juicy wieners are dipped in a thick, golden southern-style corn batter that seals in all their freshness and flavor. If you like hot dogs, you'll love corn dogs. Everybody does. Try a corn dog with your favorite beverage. At the refreshment corner now. Corn dogs. See your next movie completely free. And now, on with the show.
Un centre de contrôle. Confirmation visuelle du robot martien Pèlerin.
Je le vois.
Il va te heurter.
Mais non.
Ah, si.
Approche.
Dites à la commission que leur échantillon est arrivé à bon port.
Au fil des années, nous estimons de plus en plus probable la présence de vie dans l'espace. De plus en plus de scientifiques pensent qu'un contact dont on n'osait même pas rêver jusqu'alors est une étape naturelle dans l'histoire de l'humanité que nombre d'entre nous connaîtront peut-être de leur vivant.
Il y a des robots sur Mars depuis 20 ans. Je me demande ce que celui-ci a trouvé.
L'échantillon consiste en une seule et grande cellule, indéniablement biologique. La première preuve irréfutable de l'existence d'une vie extraterrestre.
Je suis enfin papa. Ça promet d'être chaud pour obtenir sa garde.
C'est magnifique.
Notre premier contact avec la vie extraterrestre peut déterminer la nature de toutes nos relations ultérieures. N'oublions jamais l'impact fatal que nous avons eu sur d'innombrables peuples de cette Terre. Des gens qui nous ont fait confiance, qui nous ont défendus et que nous avons détruits par notre inconséquence. La vie que nous connaissons.
Le lieu du prélèvement est inconnu.
On ne sait pas ce que c'est.
Si jamais ça revient sur Terre, nous mettons toutes les vies humaines en danger.
On n'est plus en orbite.
Tu ne sais pas ce qu'il peut faire.
La vie que nous connaissons. La vie que nous connaissons. C'est peut-être par là que nous devrions commencer. Par nous-mêmes.
Life, ou Vie, est un drame de science-fiction qui a été distribué par les studios Columbia Pictures et Skydance Media le 24 mars 2017. Ce film américain d'une durée de 100 minutes a coûté 58 millions à produire, mais amassera plus de 100,8 millions de dollars au box-office mondial. Au niveau de la réalisation, on y retrouve Daniel Espinosa, ce réalisateur suédois qui avait mis en scène les films Charles 44, Safe House, Morbius et la version de 2010 Easy Money. Au niveau de la production, on y retrouve le producteur américain David Hellison, lui qui avait réalisé Mission Impossible, Rogue Nation et Terminator Dark Fate. On avait également la productrice américaine Bonnie Curtis, elle qui avait produit les films Saving Private Ryan, Minority Report et To the Bone. La productrice américaine Dana Goldberg, elle qui a travaillé sur Terminator Genesis, Gemini Man et The Old Guard, ainsi que Julie Lynn, cette productrice américaine, qui avait travaillé sur Passengers, Wakefield et The Suite Life. Au niveau du scénario, eh bien, c'est le scénariste américain Rhett Reiss ainsi que le scénariste canadien Paul Wernick, ces deux hommes qui avaient travaillé sur Zombieland, Deadpool 1 et 2 et Zombieland Double Tap. Au niveau de la distribution, on y retrouve Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada, Arian Bakari, Naoko Mori et Olga Diovichania. À bord de la Station spatiale internationale, un équipage décèle dans des poussières prélevées sur Mars un organisme unicellulaire qui s'anime sous l'effet du glucose et dans une atmosphère simulant celle de notre planète. Mais cet organisme extraterrestre subira alors une transformation qui le rend dangereux lorsque ce dernier s'attaque aux scientifiques de la Station spatiale. Ce sera le producteur David Ellison et sa partenaire en affaires Dana Goldberg qui eurent l'idée initiale du scénario à l'époque où la sonde Curiosity venait d'atterrir sur Mars, se demandant ce qu'il adviendrait si cette dernière avait découvert une vie unicellulaire sur Mars et l'avait rapportée à bord de la Station orbitale internationale pour analyse. Suite à cette idée de base, les scénaristes Rhett Reese et Paul Wernick seront embauchés par les deux producteurs. Pour développer une partie du scénario ainsi que la créature, la production fera alors appel à un consultant scientifique, le Dr. Adam Rutherford, qui s'inspirera alors de micro-organismes à organisation cellulaire simple. Ce sera la compagnie Skydance Media qui achètera le scénario écrit par Reese et Wernick. Habituellement, cette compagnie de production faisait affaire avec Paramount Pictures pour la distribution de ses films. Cependant, aucun accord ne surviendra entre les deux compagnies, ce qui forcera alors Skydance de se retourner vers Sony Pictures, qui gérera alors les droits de distribution mondiaux et cofinancera le long-métrage. Ce projet deviendra donc la toute première participation entre ces deux compagnies. Life sera également le tout premier film ayant une cote officielle restricted aux États-Unis qui sera produit par la compagnie de cinéma Skydance qui venait à peine de célébrer ses 10 ans d'existence. Après s'être entouré d'une équipe de producteurs ayant un curriculum vitae assez impressionnant, ceux-ci ayant travaillé sur des franchises telles que Jurassic Park, Mission Impossible, Deadpool, G.I. Joe ainsi que Terminator, Ellison et Goldberg embaucheront en novembre 2015 le metteur en scène suédois Daniel Espinosa, dont il s'agira ici du quatrième film en carrière, mais de sa toute première expérience sur un film de science-fiction se déroulant dans l'espace. Du côté de la distribution, l'actrice Rebecca Ferguson sera approchée pour le rôle principal féminin, mais cette dernière refusera le rôle, ne pensant pas être à la hauteur. Après avoir discuté avec le réalisateur, la jeune femme changera alors d'idée et signera sur le projet en janvier 2016. Ce sera par la suite le tour de l'acteur Ryan Reynolds qui sera approché pour jouer dans le film. À l'origine, Reynolds devait interpréter le rôle principal, mais malheureusement, un conflit d'horaire avec le tournage du film de Netflix The Hitman's Bodyguard le forcera à signer en février 2016 pour interpréter le rôle secondaire de Rory Adams. Ceci laissera la porte grande ouverte pour l'embauche de l'acteur Jake Gyllenhaal en mars de cette même année pour interpréter le personnage principal. En juin et juillet, la production complétera alors sa distribution avec l'embauche des acteurs Hiroyuki Sanada, suivi d'Olga Diovichnaya et Arian Bakari. Le tournage du film commencera au studio Shepperton à Londres le 19 juillet 2016. Pour imiter l'absence de gravité, les acteurs seront suspendus par des fils qui seront par la suite effacés en post-production. La plupart des effets visuels ont été gérés par la compagnie Double Negative, à l'exception de la prise de vue de 8 minutes qui ouvre le film, cette dernière étant réalisée par la compagnie Industrial Light & Magic à l'aide d'un modèle réduit de la Station orbitale internationale. Pour le tournage de cette scène, qui apparaît à l'écran comme un plan continu, cela aura pris plus d'un mois de préparation avec les acteurs et les techniciens. Les comédiens durent avoir une formation pour jouer tout en gardant un contrôle sur leur corps, suspendu au bout de fils de fer. Une formation en danse les aidera également afin de réussir tous les mouvements nécessaires. Au niveau technique, les décors devaient être tournés en synchronisation avec le mouvement de la caméra et des acteurs afin que le résultat final fonctionne sur le grand écran. D'ailleurs, pour la réalisation de cette scène difficile, le réalisateur, qui n'avait pas d'expérience dans ce domaine, se tournera vers Emmanuel Lubetzky, un directeur de photographie qui remporta 3 Oscars durant sa carrière. Mais ce sera finalement le directeur de photo Seamus McGarvey qui se retrouvera sur ce tournage. L'homme, ayant réalisé l'une des scènes tournées en une seule plan-séquence les plus impressionnantes du cinéma nord-américain dans le film Atonement en 2007. L'acteur Jake Gyllenhaal coûtera presque 250 000 $ à la production lors du tournage. Apparemment, Gyllenhaal ne buvait pas correctement sa bouteille d'eau dans l'une des séquences en apesanteur. Des erreurs comme celle-ci devaient être rattrapées rapidement afin de conserver un aspect de réalisme sur la production. Du côté de Rebecca Ferguson, cette dernière apprendra rapidement à maîtriser l'art de simuler l'apesanteur, la jeune femme s'assurant de conserver ses mains levées, car les mains d'un astronaute en apesanteur flottaient toujours vers le haut. Chaque jour sur le plateau de tournage sera un défi pour les acteurs, ces derniers devant réapprendre physiquement à se déplacer dans leur espace de travail. Pour l'acteur Arian Bakery, comme son personnage n'avait pas l'usage de ses jambes, il passera plus de 2 semaines en fauteuil roulant. Pour le compositeur John Ekstrand, il s'agira ici de sa 2e composition pour un film nord-américain, les 2 fois travaillant avec le réalisateur Daniel Espinosa. Le réalisateur suédois demandera alors à Ekstrand de rechercher un son rappelant celui de Bernard Herrmann, le tout mélangé avec une certaine influence de la musique du film 2001 Odyssée de l'espace. Life devait sortir en salle à l'origine le 26 mai 2017, mais sera devancé afin d'éviter une concurrence avec Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales et Alien Covenant. Le film sortira finalement en salle le 24 mars 2017, soit 1 semaine après sa première mondiale à South by Southwest le 18 mars. Juste avant la sortie du long-métrage, il est à noter que des images d'archives d'une foule réagissant à Spider-Man attrapant Gwen Stacy dans le film Spider-Man 3 ont été utilisées pour la dernière bande-annonce du film Life. Cette annonce a conduit à de multiples théories selon laquelle Life était secrètement une histoire d'origine pour le symbiote présenté dans Spider-Man 3, une théorie rendue encore plus populaire par l'annonce d'une adaptation cinématographique du personnage du comic book Venom pour 2018. De plus, juste pour soutenir cette théorie, qui finalement n'était pas véridique, il fut avancé que les scénaristes de Life, Rhett Reese et Paul Wernick, avaient travaillé sur un scénario de Venom. Life rapportera plus de 30,2 millions de $ aux États-Unis et au Canada et 70,3 millions de $ dans le reste du monde. En Amérique du Nord, le film de science-fiction sortira en salle en compétition avec Power Rangers, Chips et Wilson et amassera 12,6 millions de $ dans plus de 3146 cinémas lors de son week-end d'ouverture, terminant 4e au box-office derrière Beauty and the Beast, Power Rangers et Kong Skull Island. Du côté des points forts, eh bien, le film comprend d'excellentes interprétations des différents comédiens présents sur cette production. La scène d'introduction est techniquement spectaculaire et très bien coordonnée, tant au niveau du jeu de la caméra, des comédiens, mais également de l'action qui se passe sur l'écran. D'ailleurs, le visuel soigné et la mise en scène du réalisateur font de ce film un spectacle plus qu'intéressant à regarder, bien que le sujet ait déjà été abordé à maintes reprises dans d'autres films. Les scènes d'action et de suspense sont habilement menées et interprétées, faisant en sorte que le spectateur ne s'ennuie pas face à ces scènes prenantes. Les scènes de violence sont modérées, ce qui permet à un auditoire qui déteste les films d'horreur de savourer le spectacle. Du côté des points faibles, eh bien, malgré un suspense bien mené et d'excellents effets spéciaux, le film est miné par plusieurs longueurs, dû principalement à un scénario ayant quelques faiblesses. De plus, il est difficile pour le spectateur de s'attacher aux différents personnages, le film ne prenant pas le temps de bien développer ces derniers. Et en conclusion, le twist final est véritablement prévisible et totalement inutile, faisant sombrer le long métrage dans la facilité commerciale et brisant totalement ce qui avait été fait dans les 2 premiers tiers du film. Au niveau de la musique, on y retrouve le compositeur John Ekstrand, ce compositeur suédois qui nous a donné les trames sonores des films Charles 44, Babylon The Seas, Leo, et la trilogie de Easy Money, soit la trilogie qui a été faite en 2010, 2012 et 2013. La trame sonore peut se trouver sur l'étiquette Millen Records, elle qui est sortie le 24 mars 2017. Je vous présente ici le thème du film Life. Du côté des points artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film 5. J'y vais également avec une cote 5 pour le film de Green Slime. Au niveau de l'âge et le contenu, eh bien, la régie du cinéma cote le film général. J'y vais également avec une cote pour tous, malgré quelques séquences de violence. Du côté de Life, eh bien, Mediafilm a coté le film 5. J'y vais également avec un 5. J'aurais été avec un 4, ça n'avait pas été de la conclusion qui est un petit peu trop conventionnelle. Au niveau de la régie du cinéma, le film est coté 13 ans indicatif. J'y vais avec une cote 14 ans à cause de scènes de violence. Mais encore là, c'est un film qui peut s'écouter facilement pour les gens qui n'aiment pas les films d'horreur. Au niveau de la distribution en DVD et en Blu-ray disc, The Green Slime est disponible en Blu-ray et en DVD, mais dans sa version uniquement anglophone, alors que du côté de Life, eh bien, le film se trouve en français et en anglais, que ce soit en DVD ou en Blu-ray disc. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.